Chapitre 3. Question. Alors j'ai 100 questions. 1000, 1 million. Et le problème, c'est que je ne sais pas par quoi commencer. Réponse. Énumère les questions. C'est tout. Commence quelque part. Vas-y, tout de suite. Fais une liste des questions qui te viennent. Question. D'accord. Certaines d'entre elles vont sembler assez simples, assez plébéiennes. Réponse. Cesse de te juger. Énumère-les. C'est tout. Question. Bien. Alors voici celles qui me viennent à présent. Petit 1. Quand ma vie finira-t-elle par prendre son envol? Que faut-il que je fasse pour m'organiser et atteindre un minimum de succès? La lutte finira-t-elle un jour? Petit 2. Quand en apprendrai-je suffisamment sur les relations personnelles pour qu'elles se déroulent sans difficulté? Y a-t-il une façon d'être heureux dans les relations personnelles? Sont-elles toujours forcément des défis? Petit 3. Pourquoi est-ce qu'on dirait que je ne peux jamais attirer suffisamment d'argent dans ma vie? Suis-je destiné à vivoter et à économiser sur tout, à tout jamais? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mon plein potentiel à cet égard? Petit 4. Pourquoi ne puis-je pas faire ce que je veux vraiment faire tout en gagnant ma vie? Petit 5. Comment puis-je résoudre certains des problèmes de santé que j'affronte? J'ai été la victime de suffisamment de problèmes chroniques pour toute une vie. Pourquoi est-ce que je les ai tous maintenant? Petit 6. Quelle leçon karmique suis-je censé apprendre ici? Qu'est-ce que j'essaie de maîtriser? Petit 7. La réincarnation existe-t-elle? Combien de vies antérieures est-ce que j'ai eues? De quoi était-elle faite? La dette karmique est-elle une réalité? Petit 8. Je me sens parfois très clairvoyant. Est-ce qu'on peut être clairvoyant? Est-ce que je le suis? Les gens qui prétendent être clairvoyants ont-ils fait un pacte avec le diable? Petit 9. Est-il correct de recevoir de l'argent pour du bien qu'on a fait? Si je choisis de faire un travail de guérison dans le monde, l'œuvre de Dieu, puis-je faire cela et atteindre l'abondance financière, ou est-ce que les deux s'excluent mutuellement? Petit 10. Le sexe est-il une bonne chose? Allons, quelle est la vérité qui se cache derrière cette expérience humaine? Le sexe est-il purement destiné à la procréation, comme le disent certaines religions? Atteint-on la sainteté véritable et l'illumination par le reniement ou la transmutation de l'énergie sexuelle? Est-il correct de faire l'amour sans amour? La seule sensation physique est-elle une raison suffisante? Petit 11. Pourquoi as-tu fait du sexe une expérience humaine si bonne, si spectaculaire, si puissante, si nous devons tous nous en abstenir autant que possible? Alors, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, pourquoi tout ce qui fait plaisir est-il immoral, illégal ou riche en calories? Petit 12. Y a-t-il de la vie sur les autres planètes? En avons-nous reçu la visite? Est-ce qu'on nous observe à présent? Verrons-nous dans cette vie la preuve irrévocable et indiscutable d'une vie extraterrestre? Est-ce que chaque forme de vie a son propre Dieu? Es-tu le Dieu de tout cela? Petit 13. L'utopie se réalisera-t-elle un jour sur la planète Terre? Dieu se montrera-t-il jamais aux gens de la Terre, tel que promis? Y aura-t-il un second avènement du Christ? Y aura-t-il jamais une fin du monde ou une apocalypse, tel que prophétisé dans la Bible? Existe-t-il une véritable religion unique? Si oui, laquelle? Ce ne sont que quelques-unes de mes questions, comme je l'ai dit, j'en ai 100 autres. Certaines de ces questions me gênent, elles semblent aussi prétentieuses qu'ignorantes. Mais réponds-y, je t'en prie, une à la fois, et parlons-en. Réponse. Bien. Nous entrons dans le vif du sujet. Ne t'excuse pas de poser ces questions. Ces questions des hommes et des femmes les posent depuis des centaines d'années. Si ces questions étaient si ridicules, elles ne reviendraient pas à répétition au fil des générations. Alors, passons à la question numéro 1. J'ai établi des lois dans l'univers qui te permettent d'avoir, de créer précisément ce que tu choisis. On ne peut déroger à ces lois, ni les ignorer. Tu es en train de suivre ces lois en ce moment même. En lisant ceci, tu ne peux pas ne pas suivre la loi, car c'est ainsi que vont les choses. Tu ne peux t'écarter de cela. Tu ne peux agir en dehors de ces lois. Chaque minute de ta vie, tu as agi à l'intérieur de ces lois, et tout ce dont tu as fait l'expérience, tu l'as ainsi créé. Tu es en partenariat avec Dieu. Nous partageons une alliance éternelle. La promesse que je t'ai faite, c'est de toujours te donner ce que tu demandes. Ta promesse, c'est de demander, de comprendre le processus de la demande et de la réponse. Je t'ai déjà expliqué ce processus. Je vais le faire à nouveau, afin que tu le comprennes clairement. Tu es un être triple. Tu es un corps, un esprit et une âme. Tu pourrais également appeler cela le physique, le non-physique et le métaphysique. C'est la Sainte Trinité et on lui a donné bien des noms. Ce que tu es, je le suis. Je me manifeste en tant que trois en un. Certains de vos théologiens ont appelé cela le Père, Fils et Saint-Esprit. Vos psychiatres ont reconnu ce triumvirat et l'ont appelé conscient, subconscient et supraconscient. Vos philosophes l'ont appelé le ça, le moi et le surmoi. La science l'appelle énergie, matière et antimatière. Les poètes parlent d'esprit, de cœur et d'âme. Les penseurs du Nouvel Âge font référence au corps, à l'esprit et à l'âme. Ton temps est divisé en passé, présent et futur. Ne serait-ce pas la même chose que subconscient, conscient et supraconscient ? De même, l'espace est divisé en trois. Ici, là et l'espace entre les deux. Ce qui est difficile, insaisissable, c'est de définir et de décrire l'espace entre les deux. Dès qu'on se met à définir ou à décrire l'espace que l'on décrit, devient ici ou là. Et pourtant, nous savons que cet espace entre les deux existe. C'est ce qui maintient ici et là en place. Tout comme l'éternel, maintenant, maintient en place avant et après. Ces trois aspects de toi sont en réalité trois énergies. Tu pourrais les appeler pensée, parole et action. Les trois mises ensemble produisent un résultat qui, dans ton langage et ta compréhension, s'appelle un sentiment ou une expérience. Ton âme, subconscient, ça, esprit, passé, etc., est la somme de tous les sentiments que tu as jamais eus ou créés. Ta conscience de certains d'entre eux s'appelle ta mémoire. Lorsque tu as un souvenir, on dit que tu te rappelles. Cela veut dire remettre ensemble, rassembler les parties. Lorsque tu rassembleras toutes les parties de toi, tu te seras rappelé qui tu es vraiment. Le processus de la création commence par la pensée. Une idée, un concept, une visualisation. Tout ce que tu vois a un jour été l'idée de quelqu'un. Rien n'existe dans ton monde qui n'ait d'abord existé sous forme de pensée pure. C'est tout aussi vrai en ce qui concerne l'univers. La pensée est le premier niveau de la création. Puis vient la parole. Tout ce que tu dis est une pensée exprimée. Elle est créative et envoie de l'énergie créative dans l'univers. Les paroles sont plus dynamiques, certains pourraient donc dire plus créatives que la pensée, car les paroles constituent un niveau de vibration différent de celui de la pensée. Elles dérangent, changent, modifient et affectent l'univers avec un plus grand impact. Les paroles constituent le deuxième niveau de la création. Ensuite vient l'action. Les actions sont des paroles en mouvement. Les paroles sont des pensées exprimées. Les pensées sont des idées formées. Les idées sont des énergies rassemblées. Les énergies sont des forces libérées. Les forces sont des éléments existants. Les éléments sont des particules de Dieu, des portions du tout, l'étoffe de chaque chose. Le commencement, c'est Dieu. La fin, c'est l'action. L'action, c'est Dieu en création, ou l'expérience de Dieu. Tu ne te crois pas suffisamment bien, pas suffisamment extraordinaire, pas suffisamment pur pour faire partie de Dieu, pour être un partenaire de Dieu. Tu nies depuis si longtemps qui tu es que tu as oublié qui tu es. Cela n'est pas arrivé par coïncidence, ce n'est pas accidentel. Tout cela fait partie du plan divin, car tu ne pourrais pas demander, créer, faire l'expérience de qui tu es si tu l'étais déjà. Il était d'abord nécessaire que tu libères, nie, oublie ton lien avec moi, afin d'en faire pleinement l'expérience en le créant entièrement, en le provoquant. Car ton plus grand souhait, et mon plus grand désir, était que tu fasses l'expérience de toi-même en tant que partie de moi que tu es. Tu es par conséquent dans le processus qui consiste à faire l'expérience de toi-même en te créant à nouveau à chaque instant. Tout comme moi, à travers toi. Vois-tu ce partenariat ? En saisis-tu les implications ? C'est une sainte collaboration, véritablement, une sainte communion. La vie va donc prendre son envol pour toi au moment où tu le choisiras. Tu ne l'as pas encore choisi. Tu as retardé, prolongé, fait traîner, protesté. À présent, il est temps que tu provoques et produises ce que tu as promis. Pour ce faire, tu dois croire en la promesse et la vivre. Tu dois vivre la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que tu sois son fils, sa progéniture, sa ressemblance, son égal. Ah, c'est ici que tu butes. Tu peux accepter son fils, sa ressemblance, mais tu recules devant l'idée de te faire appeler son égal. C'est trop pour toi. C'est trop pour que tu l'acceptes. Trop de grandeur, trop d'émerveillement, trop de responsabilité. Car si tu es l'égal de Dieu, cela veut dire qu'il ne t'est rien fait. Que c'est toi qui crée tout. Il ne peut plus y avoir ni victime, ni méchant. Il n'y a que les résultats de ta pensée à propos de quelque chose. Je te dis ceci. Tout ce que tu vois dans ton monde est le résultat de l'idée que tu t'en fais. Veux-tu que ta vie prenne véritablement son envol ? Alors change l'idée que tu t'en fais, que tu te fais de toi. Pense, parle et agis comme le Dieu que tu es. Bien entendu, cela va te séparer d'un grand nombre, de la plupart, de tes semblables. Ils vont te traiter de fou. Ils vont dire que tu blasphèmes. Ils vont peut-être même finir par en avoir assez de toi et tenter de te crucifier. Ils feront cela, non pas parce qu'ils croient que tu vis dans le monde de tes propres illusions. La plupart des hommes sont suffisamment courtois pour te laisser tes divertissements privés. Mais parce que, tôt ou tard, d'autres deviendront attirés par ta vérité, pour les promesses qu'elle leur réserve. C'est ici que tes semblables vont interférer, car c'est ici que tu commenceras à leur paraître menaçant. Car ta vérité simple, vécue simplement, offrira plus de beauté, plus de réconfort, plus de paix, plus de joie et plus d'amour de soi et des autres que tout ce que ne pourrait concevoir à tes semblables terriens. Et l'adoption de cette vérité signifierait la fin de leur façon de faire. Cela voudrait dire la fin de la haine, de la peur, de la bigoterie et de la guerre, la fin de la condamnation et de la tuerie qui se sont poursuivies en mon nom, la fin de la loi du plus fort, la fin de la loyauté et de l'hommage renforcé par la peur, la fin du monde tel qu'ils le connaissent et tel que tu l'as créé jusqu'ici. Alors prépare-toi, chère âme, car tu seras calomnié et ils te cracheront dessus. Ils t'insulteront et te délaisseront. Ils finiront par t'accuser, te juger et te condamner. Tout cela à leur façon, à partir du moment où tu accepteras et adopteras ta cause sacrée, l'accomplissement de soi. Alors pourquoi le faire ? Parce que tu ne te préoccupes plus de l'acceptation ou de l'approbation du monde. Tu n'es plus satisfait de ce que cela t'a apporté. Tu n'es plus content de ce que cela a donné aux autres. Tu veux que la douleur cesse, que la souffrance cesse, que l'illusion prenne fin. Tu en as assez de ce monde tel qu'il est présentement. Tu cherches un monde plus neuf. Ne le cherche plus. À présent, provoque-le. Question. Peux-tu m'aider à mieux comprendre comment faire ? Réponse. Oui. D'abord, tourne-toi vers ta pensée la plus élevée à propos de toi-même. Imagine-toi tel que tu serais si tu vivais cette pensée chaque jour. Imagine ce que tu penserais, ferais et dirais, et comment tu répondrais à ce que feraient et diraient les autres. Vois-tu une différence entre cette projection et ce que tu penses, fais et dis maintenant ? Question. Oui, je vois pas mal de différences. Réponse. Bien, c'est normal. Puisque nous savons qu'à présent, tu n'es pas en train de vivre ta vision la plus élevée de toi-même. Alors, ayant vu les différences entre ton état actuel et celui que tu veux atteindre, commence à changer consciemment tes pensées, paroles et actions de façon à les adapter à ta vision la plus merveilleuse. Cela exigera un incroyable effort mental et physique. Cela entraînera une surveillance constante à chaque instant de chacune de tes pensées, de chacune de tes paroles et de chacun de tes gestes. Cela impliquera que tu fasses continuellement un choix conscient. Tout ce processus est un passage massif à la conscience. Ce que tu découvriras, si tu entreprends ce défi, c'est que tu as passé la moitié de ta vie inconscient, c'est-à-dire ignorant à un niveau conscient de ce que tu es en train de choisir en matière de pensée, de parole et d'action, jusqu'à ce que tu en fasses l'expérience de ses conséquences. Ensuite, lorsque tu en expérimentes les résultats, tu nies tout rapport entre ces derniers et tes pensées, paroles et actions. Je t'appelle à cesser de vivre dans une telle inconscience. C'est un défi auquel ton âme t'appelle depuis le commencement des temps. Question. Ce genre de surveillance mentale continuelle semble terriblement épuisante. Réponse, elle le sera peut-être, jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. En fait, c'est ta seconde nature. Ta première nature est d'aimer inconditionnellement. Ta seconde nature est de choisir d'exprimer ta première nature, ta vraie nature, ta façon consciente. Question, excuse-moi, mais ce genre de mise au point continuelle de tout ce que je pense, dit et fait, est-ce que ça ne me rendrait pas ennuyeux comme la pluie ? Réponse, jamais. Différent, oui. Ennuyeux, non. Jésus était-il ennuyeux ? Je ne pense pas. Le Bouddha était-il ennuyeux pour ceux qu'il fréquentait ? Les gens accouraient, suppliaient d'être en sa présence. Aucun de ceux qui ont atteint la maîtrise n'est ennuyeux. Singulier, peut-être. Extraordinaire, peut-être. Mais ennuyeux, jamais. Alors veux-tu que ta vie prenne son envol ? Commence tout de suite à l'imaginer telle que tu veux qu'elle soit et entre là-dedans. Examine toute pensée, toute parole et toute action qui ne s'accorde pas avec cela. Éloigne-t'en. Lorsque tu as une pensée qui n'est pas alignée sur ta vision supérieure, passe à une nouvelle pensée sur le champ. Lorsque tu dis une chose qui n'est pas alignée sur ton idée la plus grandiose, prends note de ne plus rien dire de semblable. Lorsque tu fais une chose qui n'est pas alignée sur ta meilleure intention, décide que c'est pour la dernière fois. Et, si possible, arrange les choses avec tous ceux qui étaient concernés. Question. J'ai déjà entendu cela et j'ai toujours protesté parce que ça me paraît malhonnête. Écoute, si tu es malade comme un chien, tu n'es pas censé l'admettre. Si tu es fauché comme un clou, tu n'es pas censé le dire. Si tu es furieux en diable, tu n'es pas censé le montrer. Ça me rappelle une blague à propos de trois personnes qui arrivent en enfer. L'une est catholique, l'autre juive, l'autre nouvel-âgiste. Le diable dit aux catholiques d'une façon sarcastique « Alors, est-ce que tu aimes cette chaleur ?» Le catholique dit en soupirant « J'en fais l'offrande. » Le diable demande alors au juif « Et toi, tu aimes cette chaleur ?» Le juif dit « En effet, à quoi d'autre pouvais-je m'attendre qu'à plus grand enfer ?» Finalement, le diable s'approche du nouvel agiste. « La chaleur ?» demande le nouvel agiste en sueur. « Quelle chaleur ?» Réponse. Elle est bonne, mais je ne te suggère pas d'ignorer le problème ou de faire comme s'il n'existait pas. Je te suggère de prendre note de la situation et ensuite d'en exprimer ta vérité la plus élevée. Si tu es fauché, tu es fauché. Il est inutile de mentir à ce propos et en fait, il est épuisant d'essayer de monter toute une histoire pour ne pas l'admettre. Mais c'est ce que tu penses de cette situation. Il est mauvais d'être fauché. C'est horrible. Je suis une mauvaise personne parce que les bonnes personnes qui travaillent fort et prennent des initiatives ne sont jamais fauchées, etc. Qui régit ta façon de ressentir le fait d'être fauché. Ce sont tes paroles à cet égard, je suis fauché, je n'ai pas un sou, je n'ai pas d'argent, qui dictent combien de temps tu resteras fauché. Ce sont tes actions environnantes, te plaindre, rester abattu, ne pas essayer de t'en sortir, parce que à quoi bon de toute façon, qui crée ta réalité à long terme. La première chose qu'il faut comprendre à propos de l'univers, c'est qu'aucune situation n'est bonne ou mauvaise. Elle l'est, tout simplement. Alors cesse de poser des jugements de valeur. La deuxième chose à savoir, c'est que toutes les situations sont temporaires. Rien ne reste le même, rien ne demeure statique. De quelle façon une chose change, cela dépend de toi. Question. Excuse-moi, mais je dois t'interrompre à nouveau. Qu'en est-il de la personne qui est malade, mais qui a la foi qui soulève les montagnes et qui pense, dit et croit qu'elle va aller mieux, mais qui meurt 6 semaines plus tard? Comment est-ce que ça cadre avec toute cette histoire de pensée positive, d'action affirmative? Réponse. C'est bien. Tu poses les questions difficiles. C'est bien. Tu ne te contentes pas de me croire sur parole. À un moment donné, prochainement, tu devras croire en ma parole, car tu finiras par découvrir que nous pourrions parler de cela indéfiniment, toi et moi, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien d'autre à faire que de l'essayer ou le nier. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors poursuivons le dialogue, continuons de parler. La personne qui a la foi qui soulève les montagnes et qui meurt 6 semaines plus tard a soulevé des montagnes pendant 6 semaines. C'était peut-être suffisant pour elle. Elle a peut-être décidé, à la dernière heure, du dernier jour, « D'accord, j'en ai assez. Je suis prête maintenant à partir vers une nouvelle aventure. » Tu n'as peut-être pas eu connaissance de cette décision parce qu'elle ne te l'a pas dit. En vérité, Elle a peut-être pris cette décision un peu plus tôt, des jours, des semaines plus tôt, sans te l'avoir dit, sans le dire à personne d'ailleurs. Vous avez créé une société dans laquelle il n'est pas très correct de vouloir mourir. Il est difficile d'être très à l'aise avec la mort. Parce que vous ne voulez pas mourir, vous ne pouvez imaginer que quiconque veuille mourir, peu importe sa situation ou sa condition. Mais dans bien des situations, la mort est préférable à la vie. Je sais que tu peux en imaginer, il te suffit d'y penser un tout petit peu. Cependant, tu ne te rends pas compte de ces vérités. Elles ne sont pas si évidentes lorsque tu regardes en face quelqu'un qui a choisi de mourir. Et la personne mourante le sait. Elle peut sentir à quel point les gens qui se trouvent dans la pièce acceptent ou non sa décision. As-tu déjà remarqué? Certaines gens attendent que la pièce soit vide avant de mourir. Certaines doivent même dire à leurs proches « Non vraiment, tu peux t'en aller, va manger quelque chose, ou va dormir un peu, ça va bien, je te revois demain matin. » Et alors, lorsque le fidèle gardien s'en va, l'âme s'en va aussi du corps de la personne gardée. Si elle disait « Je veux juste mourir » à leurs parents et amis rassemblés, ces derniers s'y opposeraient « Oh, tu n'es pas sérieux !» ou « Allons, ne parle pas comme ça !» ou « Tiens bon !» ou « Je t'en prie, ne me quitte pas !» Toute la formation médicale professionnelle a pour but de garder les gens en vie, plutôt que de garder les gens à l'aise, afin qu'ils puissent mourir avec dignité. Tu vois, pour un médecin, un infirmier ou une infirmière, la mort est un échec. Pour un ami ou un parent, la mort est une catastrophe. Ce n'est que pour l'âme que la mort est un soulagement, une libération. Ainsi, c'est très souvent ce qui s'est passé dans le cas de l'homme qui dit qu'il va vivre, croit qu'il va vivre et prie même pour vivre au niveau de l'âme. Il a changé d'idée. Il est temps à présent d'abandonner le corps pour libérer l'âme afin qu'elle puisse s'adonner à d'autres activités. Lorsque l'âme prend cette décision, le corps ne peut rien faire pour échanger quoi que ce soit. Rien de ce que pense l'esprit ne peut y faire quoi que ce soit. C'est à l'instant de la mort que nous apprenons qui, dans le triumvirat corps esprit âme, est aux commandes. Toute ta vie, tu crois être dans ton corps. À certains moments, tu crois être ton esprit. C'est au moment de ta mort que tu découvres qui tu es vraiment. Mais il y a aussi des moments où le corps et l'esprit n'écoutent tout simplement pas l'âme. Cela aussi, ça crée le scénario que tu décris. La chose la plus difficile pour les gens, c'est d'entendre leurs âmes. Remarque que peu le font. Alors, il arrive souvent que l'âme décide qu'il est temps de quitter le corps. Le corps et l'esprit, éternel serviteur de l'âme, entendent cela, et le processus de dégagement commence. Mais l'esprit, l'ego, ne veut pas l'accepter. Après tout, c'est la fin de son existence. Alors, il ordonne au corps de résister à la mort. Le corps le fait avec joie, puisqu'il ne veut pas mourir. Lui non plus. Pour cela, le corps et l'esprit, l'ego, reçoivent beaucoup d'encouragement et de louanges du monde extérieur, le monde de sa création. Ainsi, la stratégie est confirmée. Alors, à ce stade-ci, tout dépend du désir de l'âme de partir. S'il n'y a pas d'urgence forte, l'âme peut dire « D'accord, tu gagnes. Je vais rester avec toi un peu plus longtemps. » Mais si l'âme voit très clairement que le fait de rester ne sert pas son programme supérieur, qu'elle ne peut plus évoluer à travers ce corps, elle va partir et rien ne l'arrêtera et personne ne devrait tenter de l'arrêter. L'âme sait très clairement que son but est d'évoluer. C'est son seul but et son but en tant qu'âme. Elle ne se soucie pas des accomplissements du corps ou du développement intellectuel. Ces choses-là sont sans importance pour l'âme. L'âme sait clairement aussi qu'il n'est pas tragique de quitter le corps. À bien des égards, la tragédie, c'est d'être dans le corps. Alors tu dois comprendre que l'âme entrevoit toute cette histoire de mort de façon différente. Bien entendu, elle entrevoit toute cette question de vie de façon différente aussi, et c'est la source d'une grande partie de la frustration et de l'anxiété qu'on ressent dans sa vie. La frustration et l'anxiété viennent du fait que l'on n'écoute pas son âme. Question. Quelle est pour moi la meilleure façon d'écouter mon âme? Si l'âme est le patron, vraiment, comment puis-je m'assurer que ces notes de service me parviennent du bureau de la direction? Réponse. La première chose à faire est de savoir clairement ce que l'âme cherche et de cesser de porter des jugements à son égard. Question. Je porte des jugements sur mon âme. Réponse. Constamment. Je viens de te montrer que tu juges ta volonté de mourir. Tu juges aussi ta volonté de vivre, de vraiment vivre. Tu juges ta volonté de rire, de pleurer, de gagner, de perdre, de ressentir la joie et l'amour. Tu te juges surtout pour cela. Question, vraiment ? Réponse, quelque part, tu en es arrivé à penser qu'il est divin de te refuser la joie, qu'il est merveilleux de ne pas célébrer la vie. Tu t'es dit que le renoncement est bon. Question, es-tu en train de me dire qu'il est mauvais ? Réponse, il n'est ni bon ni mauvais, ce n'est que du renoncement. Si tu te sens bien après t'être nié toi-même, alors que dans ton monde, c'est censé être bon. Si tu te sens mal, c'est mauvais. La plupart du temps, tu ne peux te décider. Tu te refuses ceci ou cela parce que tu te dis que c'est ce que tu es censé faire. Puis tu te dis que c'était une bonne chose, mais tu te demandes pourquoi tu ne te sens pas bien. Alors cesse d'abord de te juger ainsi. Trouve ce que cherche l'âme et suis cette voie. Laisse l'âme suivre son cours. Ce que cherche l'âme, c'est le sentiment d'amour le plus élevé que tu puisses imaginer. Tel est le désir de l'âme, tel est son but. L'âme cherche le sentiment. Pas la connaissance, mais le sentiment. Elle a déjà la connaissance, mais la connaissance est conceptuelle. Le sentiment est expérientiel. L'âme veut ressentir et ainsi se connaître à travers sa propre expérience. Le sentiment le plus élevé est l'expérience de l'unité avec tout ce qui est. C'est le grand retour à la vérité à laquelle l'âme aspire. C'est le sentiment d'amour parfait. L'amour parfait est au sentiment ce que le blanc parfait est à la couleur. Bien des gens ont l'impression que le blanc est l'absence de couleur. Ce n'est pas le cas. C'est le mélange de toutes les couleurs. Le blanc est la combinaison de toutes les autres couleurs existantes. De même, l'amour n'est pas l'absence d'émotions, haine, colère, désir, jalousie, convoitise, mais la somme de tous les sentiments. C'est le total, l'agrégat, le tout. Ainsi, pour faire l'expérience de l'amour parfait, l'âme doit éprouver chaque sentiment humain. Comment puis-je avoir de la compassion pour ce que je ne peux pas comprendre ? Comment puis-je pardonner à un autre ce que je n'ai jamais ressenti en moi-même ? Alors, nous voyons tous les deux la simplicité et l'incroyable force du voyage de l'âme. Nous comprenons au moins ce vers quoi elle tend. Le but de l'âme humaine est de tout ressentir afin d'être tout cela. Comment peut-elle être en haut si elle n'a jamais été en bas, à gauche si elle n'a jamais été à droite ? Comment peut-elle être chaude si elle ne connaît pas le froid, bonne si elle nie le mal ? De toute évidence, l'âme ne peut choisir d'être quoi que ce soit si elle n'a pas le choix. Pour faire l'expérience de sa grandeur, l'âme doit connaître ce qu'est la grandeur. S'il n'y a rien d'autre que de la grandeur, ce serait impossible. Ainsi, l'âme réalise que la grandeur n'existe que dans l'espace de ce qui n'est pas grand. Par conséquent, l'âme ne condamne pas ce qui n'est pas grandiose, mais le bénit, en y voyant une part d'elle-même qui doit exister pour qu'une autre part d'elle-même se manifeste. Le travail de l'âme, bien entendu, est de nous faire choisir la grandeur, choisir le meilleur de qui tu es, sans condamner ce que tu ne choisis pas. C'est une grande tâche qui exige plusieurs vies, car tu as tendance à formuler un jugement rapide, de dire qu'une chose, qu'elle est mauvaise ou mal ou pas assez, plutôt que de bénir ce que tu ne choisis pas. Tu fais pis que condamner. En fait, tu cherches à nuire à ce que tu ne choisis pas. Tu cherches à le détruire. S'il n'y a personne, un endroit ou une chose que tu n'acceptes pas, tu l'attaques. Si une religion s'oppose à la tienne, tu la rends mauvaise. Si une pensée contredit la tienne, tu la rejettes. En cela, tu te trompes, car tu ne crées qu'un demi-univers, et tu ne peux même pas comprendre ta moitié lorsque tu as écarté d'emblée l'autre.
Question. Tout cela est très profond et je te remercie. Personne ne m'avait jamais dit ces choses, du moins pas avec une telle simplicité. Et j'essaie de comprendre, vraiment j'essaie. Mais il y a là quelque chose de difficile à saisir. Tu sembles vouloir dire, par exemple, que nous devrions aimer ce qui est mal, afin de pouvoir connaître ce qui est bien. Es-tu en train de dire que nous devons embrasser le diable en quelque sorte ? Réponse. Comment, autrement, pourras-tu le guérir ? Bien entendu, le diable n'existe pas vraiment, mais je réponds dans l'idiome que tu choisis. La guérison est le processus qui consiste à tout accepter, puis à choisir ce qu'il y a de mieux. Comprends-tu ça ? Tu ne peux pas choisir d'être Dieu s'il n'y a rien d'autre à choisir. Question, holà, un instant. Qui a parlé de choisir d'être Dieu ? Réponse, le sentiment le plus élevé, c'est l'amour parfait, n'est-ce pas ? Question, oui, je crois bien. Réponse, et peux-tu trouver une meilleure description de Dieu ? Question, non, vraiment non. Réponse, eh bien ton âme cherche le sentiment le plus élevé. Elle cherche à ressentir, à être l'amour parfait. Elle est l'amour parfait et elle le sait. Mais elle veut faire plus que le savoir. Elle veut en faire l'expérience. Bien sûr que tu cherches à être Dieu. Qu'est-ce que tu croyais ? Question. Je ne sais pas. Je me pose la question. J'imagine que je n'y ai tout simplement jamais pensé de cette façon. Il semble y avoir là quelque chose de vaguement blasphématoire. Réponse. N'est-il pas intéressant que tu ne trouves rien de blasphématoire à vouloir ressembler au diable, mais que chercher à ressembler à Dieu t'offense ? Question. Oh, minute. Qui cherche à ressembler au diable ? Réponse. Toi ? Vous tous ? Vous avez même créé des religions qui vous disent que vous êtes né dans le péché, que vous êtes pécheur de naissance, afin de vous convaincre de votre mauvaise nature. Mais si je vous disais que vous êtes né de Dieu, que vous êtes de pur Dieu et déesse à la naissance, pur amour, vous me rejetteriez ? Toute ta vie, tu l'as passé à te convaincre que tu es mauvais. Non seulement que tu es mauvais, mais que les choses que tu désires sont mauvaises. Le sexe est mauvais, l'argent est mauvais, la joie est mauvaise, le pouvoir est mauvais, le fait de posséder bien des choses est mauvais, tout ou presque. Certaines de tes religions t'ont même fait croire qu'il était mauvais de danser, que la musique était mauvaise, qu'il était mauvais de célébrer la vie. Bientôt tu conviendras qu'il est mauvais de sourire, de rire, d'aimer. Non, non, mon ami, il y a peut-être bien des choses que tu ne sais pas très clairement. Mais il y en a une que tu sais clairement, que tu es mauvais, tout comme la plus grande part de ce que tu désires. Ayant porté ce jugement sur toi-même, tu as décidé que tu devais travailler à t'améliorer. C'est bien d'ailleurs. C'est la meilleure destination de toute façon. Seulement, il y a une voie plus rapide, une route plus courte, un parcours plus expéditif. Question. Qu'est-ce que c'est ? Réponse. C'est d'accepter qui est ce que tu es maintenant et de le montrer. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est la voix du Bouddha, la voix de Krishna, le parcours de tous les maîtres qui soient apparus sur cette planète. Et de même, chaque maître apporte le même message. Ce que je suis, tu l'es. Ce que je peux faire, tu peux le faire. Ces choses, et d'autres encore, tu les feras aussi. Mais tu n'as pas écouté. Tu as plutôt choisi la voie beaucoup plus difficile de celui qui se prend pour le diable, de celui qui se croit mauvais. Tu dis qu'il est difficile de suivre la voie du Christ, de suivre les enseignements du Bouddha, de tenir la lampe de Krishna, d'être un maître. Mais je te dis ceci, il est beaucoup plus difficile de nier qui tu es que de l'accepter. Tu es la bonté, la miséricorde, la compassion et la compréhension. Tu es la paix, la joie et la lumière. Tu es le pardon et la patience, la force et le courage. Celui qui aide en cas de besoin, celui qui réconforte en cas de chagrin, celui qui guérit en cas de blessure, celui qui enseigne en période de confusion. Tu es la sagesse la plus profonde et la vérité la plus élevée, la plus grande paix et le plus grand amour. Tu es cela, et à certains moments de ta vie, tu t'es connu en tant que tel. Choisis à présent de toujours te connaître en tant que tel.